Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Le sud de l'Europe perd sa jeunesse, c'est vrai dans l'ensemble des Balkans, mais aussi en Italie, on va en parler avec nos correspondants. Mais d'abord, direction la Hongrie, où les usines chinoises de batteries électriques inquiètent la population. Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Dans 10 ans, les voitures neuves vendues dans l'Union européenne devront toutes être électriques. Et la course à la production de batteries est lancée. Le Premier ministre Viktor Orban veut faire de la Hongrie un producteur de rang mondial, notamment parce que l'industrie automobile allemande fabrique beaucoup dans son pays. Il a invité des entreprises chinoises à venir s'implanter. Un grand pôle industriel est en train de voir le jour dans l'Est, où le géant chinois CATL, on dit Seattle en Hongrie, construit la plus grande usine du continent. Selon plusieurs sondages, pourtant la majorité de la population est hostile à la présence de ces usines. Et dans l'Est, la colère gronde, les habitants dénoncent un risque élevé de pollution. Reportage Florence Labruyère.
Nous sommes à l'est de la Hongrie, à la périphérie de Debrecen, une ville de 200 000 habitants. Sur cette vaste plaine, on voit des kilomètres de bâtiments en construction. Pas moins de 7 usines flambant neuves sont en train de sortir de terre, notamment celle du géant chinois Seattle, qui construit le plus grand site de production de batteries en Europe. Il devrait être opérationnel cette année. Mais les habitants sont inquiets de la pollution que risque d'engendrer ce site. Eva Kozma a fondé une association de riverains. Elle organise régulièrement des manifestations.
Ma maison est à 1,5 km de l'usine de batterie Seattle. J'ai 3 enfants et ils ne veulent pas partir à l'étranger. Moi non plus, j'aime beaucoup vivre ici. Mais cette usine va pourrir notre environnement. Ils vont y déverser tellement de produits toxiques que ça va mettre notre santé en danger. Je ne veux pas que ça arrive à mes enfants.
Le cortège de manifestants passe devant un grand bâtiment gris qui appartient à une autre entreprise chinoise. Celle-ci fabrique des pièces détachées avec lesquelles Seattle va produire ses batteries. Ce sous-traitant rejette déjà des métaux lourds dans la rivière. Une pollution que le gouvernement hongrois a cachée au public pendant des mois avant de reconnaître les faits, mais en les déformant.
C'est une pollution très grave, c'est un exemple de ce qui va nous arriver. Mais le gouvernement a menti. Il a dit que ce n'était pas de la pollution, mais simplement un problème de gestion des déchets.
L'usine de Seattle n'est pas encore en service, mais les habitants ont peur que l'exemple de Samsung se répète. Depuis 2018, le géant coréen produit des batteries à l'ouest de la Hongrie. Et selon des associations civiles, cela génère une importante pollution de l'eau. Les autorités se contentent de lui infliger des amendes dérisoires. C'est en 2020 que Viktor Orban a décidé de faire de la Hongrie un grand producteur de batteries. Objectif, garder dans le pays les grands constructeurs automobiles allemands déjà présents, BMW et Mercedes, qui ont besoin de batteries électriques. Le gouvernement Orban a donc décidé d'accueillir à bras ouverts les entreprises chinoises. Dans toute la Hongrie, une centaine d'usines de batteries pourraient voir le jour. En septembre 2022, le ministre hongrois des Affaires étrangères se félicitait du contrat signé avec Seattle.
Les entreprises chinoises apportent en Hongrie les technologies les plus modernes. Ceux qui critiquaient notre politique d'ouverture à l'Est nous envient beaucoup aujourd'hui. Et il y a de quoi.
La Chine est aujourd'hui le deuxième investisseur étranger en Hongrie, derrière l'Allemagne. La Hongrie attire 44% de tous les investissements chinois en Europe. Des chiffres boostés par l'arrivée récente de Seattle et de celle du plus grand producteur chinois de voitures électriques qui est en train de construire une usine au sud du pays. Alors pourquoi la Hongrie attire-t-elle autant les industriels chinois? Explication de Dora Diurfi, professeure d'économie à l'université Corvinus.
Si la Hongrie est si populaire auprès des producteurs chinois de batteries, c'est parce qu'ils reçoivent d'énormes subventions en cash du gouvernement hongrois. Ça représente 15 à 20% de leur investissement. En plus, le gouvernement finance toute l'infrastructure autour des usines. Et le code du travail est très peu contraignant, comme les lois sur l'environnement d'ailleurs.
L'environnement, c'est la question qui fâche. Mais elle a été balayée sous le tapis par le gouvernement hongrois qui a délivré à l'usine Seattle une autorisation environnementale sans aucune contrainte. Un véritable permis de polluer pour l'industriel qui peut donc utiliser sans limite des produits dangereux comme le NMP, un solvant dont la diffusion dans l'air ou l'eau peut entraîner des malformations génétiques ou des cancers. Aussi, plusieurs particuliers et associations ont porté plainte ensemble contre le gouvernement hongrois. István Halász est l'un des avocats de cette action collective.
D'après la loi, un industriel a l'obligation d'utiliser les techniques les plus modernes qui sont sur le marché. Or, ces technologies innovantes, qui réduisent à zéro le risque de pollution, existent en Europe. Mais Seattle a choisi une vieille méthode de production qui va rejeter des produits très toxiques pour l'environnement et la santé.
Les habitants espèrent que la justice annulera le permis actuel et demandera au gouvernement hongrois de délivrer une nouvelle autorisation de fonctionnement qui obligerait le producteur chinois de batteries à choisir une technologie non polluante. Reste à savoir qui contrôlera ensuite ce que fait l'usine, car le gouvernement a beaucoup réduit les moyens et les compétences des agences de l'environnement.
À quoi va ressembler l'Union européenne en 2060 ? D'après Eurostat, son agence de statistiques, un tiers de sa population sera âgée de plus de 65 ans et elle aura perdu 1 million d'habitants. Tous les pays du continent seront concernés et pas seulement les 27. Aujourd'hui, l'une des questions qui préoccupe le plus le sud de l'Europe sur ces questions démographiques, c'est l'exode de sa jeunesse. La région des Balkans est l'une des plus touchées au monde par cet exode des cerveaux, au point de susciter des craintes pour l'avenir même des sociétés. Les explications de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seyé.
Ce sont des chiffres qui confirment une tendance inquiétante déjà ancienne. Les pays du sud-est européen se vident lentement de leur population. Selon une étude récente du German Marshall Fund, les 6 pays des Balkans occidentaux pourraient perdre entre un quart et la moitié de leurs jeunes diplômés dans les prochaines décennies. En Serbie, près de 65% des jeunes se disent ainsi prêts à tenter leur chance à l'étranger si l'occasion se présente, un chiffre qui atteint 71% en Albanie. Sans surprise, la jeunesse des Balkans part avant tout pour des raisons économiques. Des salaires trop bas, un faible niveau de vie ainsi qu'une absence de perspective. Mais elle fuit aussi la corruption, le manque de stabilité politique et de plus en plus l'insécurité liée à l'impunité des réseaux criminels. Une personne sur 5 émigre d'ailleurs avec l'ensemble de sa famille, signe d'un départ définitif.
Et ces départs, Louis, ont déjà des conséquences concrètes aujourd'hui.
Oui, et notamment des conséquences démographiques, puisque cette forte émigration se conjugue avec une faible natalité. Résultat, ces sociétés qui faisaient partie des plus jeunes d'Europe il y a tout juste 3 décennies, elles vieillissent aujourd'hui à vitesse grand V. Des zones entières sont en voie rapide de désertification, et cet effondrement démographique est l'un des plus rapides du monde. En 30 ans, l'Albanie a ainsi perdu près de 37% de sa population, la Bosnie 24%, tandis que ce chiffre avoisine les 10% en Macédoine du Nord et en Serbie. Intégrer l'Union européenne et son marché unique ne permet pas d'inverser la tendance. La Roumanie et la Bulgarie sont également concernées par cet exode continu des cerveaux, tout comme la Croatie qui a adhéré en 2013 et dont la population a fondu de 10% entre 2011 et 2021. Le pays de l'Adriatique compte aujourd'hui 3 800 000 habitants, soit 1 million de moins qu'au début des années 90 et les prévisions restent particulièrement alarmantes. Face aux menaces de plus en plus concrètes pour le secteur économique et leur système social, les autorités, tout comme les ONG des pays concernés, cherchent à faire revenir une jeunesse souvent très attachée aux liens familiaux.
Pour l'instant, les résultats n'ont pas l'air d'être là. Qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement ?
Alors, des subventions sont par exemple proposées aux personnes qui souhaitent rentrer chez elles et lancer leur propre entreprise, mais ces programmes peinent à toucher la diaspora et à trouver des candidats faute de publicité suffisante. Selon une étude de jeunes chercheurs locaux, près de 80% des jeunes sondés ne connaissaient même pas l'existence de ces aides financières. Confrontés aux pénuries de main-d'œuvre dans le tourisme ou l'industrie textile, les acteurs économiques ont contraint les dirigeants politiques à revoir leur politique d'immigration. Jusque la terre d'émigration, les Balkans découvrent alors tour le phénomène de l'immigration et ils voient arriver de plus en plus de travailleurs en provenance d'Asie du Sud-Est. En quelques années, les citoyens philippins ou népalais sont ainsi devenus les premières communautés étrangères de plusieurs pays de la région.
Merci Louis Seyé, à très bientôt. Et de l'autre côté de l'Adriatique en Italie, c'est aussi une véritable hémorragie. Entre 2011 et 2023, 500 000 de jeunes Italiens, 550 000 pour être précis, ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger, en quête surtout de stabilité professionnelle. Dans la troisième puissance économique de l'Union européenne, les formations sont pourtant de qualité, mais ce sont les opportunités qui manquent aux jeunes diplômés. Reportage sur ce phénomène que les gouvernements successifs essayent en vain d'enrayer. Olivier Bonnel à Rome.
Certains évoquent une génération sacrifiée. Entre 2011 et 2023, pas moins de 377 000 jeunes Italiens âgés de 18 à 34 ans ont quitté leur pays. Des chiffres compilés dans l'étude annuelle de la Fondazione Nord-Est, un centre de réflexion économique et sociale basé à Venise. Luca Paolazzi est le directeur scientifique de la Fondation. Très critique face à cette fuite des cerveaux, il déplore un pays qui n'est pas capable de capitaliser sur sa jeunesse.
Les jeunes en Italie sont maltraités. Quand ils entrent sur le marché du travail, ils ont du mal à être valorisés, à obtenir des responsabilités, à avoir des perspectives de carrière. Une carrière qui ne se résume pas seulement à avoir un salaire décent ou à monter dans la hiérarchie, mais surtout qui permette de se développer au niveau personnel. Pour les jeunes générations, le travail est très important, mais il n'est pas tout. Et ce qui fait fuir les jeunes Italiens, c'est la difficulté du pays à leur offrir le sentiment de se réaliser pleinement par le travail.
Pour Luca Paolazzi, c'est une révolution culturelle qu'il faut opérer en Italie. Les pouvoirs publics comme les entreprises devraient changer leur approche du marché du travail et de l'insertion des jeunes dans la société afin d'éviter qu'ils ne regardent vers l'étranger.
Le problème, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la mentalité. Les jeunes regardent ailleurs. Nous avons réalisé un sondage auprès des Italiens installés à l'étranger et on se rend compte qu'ils recherchent avant tout une qualité de vie. Une des choses marquantes chez les jeunes Italiens, c'est que beaucoup n'attendent même pas d'être diplômés pour partir parce que, d'une certaine manière, ils se sentent incapables, en échec. On leur tourne le dos. C'est inquiétant.
Alessandro, lui, à 23 ans, après 3 ans d'études statistiques, ce jeune Romain a décidé de quitter l'Italie pour les Pays-Bas. Il poursuit actuellement un cycle d'études européennes à Maastricht et pour rien au monde, il se verrait revenir dans la péninsule.
Quand j'aurai 50 ans, oui, je me vois bien à Rome, mais dans un avenir proche, ces 10 prochaines années au moins, je ne me vois absolument pas vivre en Italie. C'est une banalité de le dire, mais pour les jeunes Italiens, il y a peu d'opportunités de travail. C'est aussi à cause de la qualité des services. Les jeunes comme nous, qui sommes habitués à voyager, on regarde autour de nous et on voit que tout est plus facile, par exemple aux Pays-Bas. C'est typiquement le pays qui offre de nombreux services, mais à taille humaine. C'est donc très facile d'y vivre.
Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Sur la radio 24, basée à Milan, Sergio Nava présente depuis plusieurs années Génération Mobile, un programme très écouté où il partage des expériences d'Italiens expatriés ou fournit des conseils pour réussir sa carrière à l'étranger. L'animateur est un témoin privilégié de ce manque d'attractivité chronique de l'Italie et du contraste du pays avec ses voisins.
La beffa, se vogliamo, è che...
Ce qui est un peu comique, c'est que depuis de nombreuses années, on essaye de copier les meilleures pratiques internationales en matière d'emploi. On attend de reproduire plein de choses, mais sans changer réellement la culture du travail en Italie. Le problème, au-delà des salaires ou des conditions de travail, c'est l'absence de méritocratie. Un Italien qui vit cette méritocratie à l'étranger a beaucoup de mal à rentrer dans son pays où elle fait défaut.
Pour enrayer l'exil de ces jeunes générations, plusieurs programmes ont été lancés, notamment au niveau régional. C'est le cas en Émilie-Romagne, l'une des régions les plus prospères d'Italie, où un programme de 3 ans a été lancé pour retenir en particulier les jeunes doctorants. Lara Porciati pilote cette initiative.
Selon nos chiffres, 17% de ceux qui ont un doctorat quittent la région 1 à 5 ans après avoir reçu leur diplôme. Beaucoup de nos initiatives se concentrent donc sur l'orientation de ces diplômés et consistent à les mettre en contact étroit avec le monde de l'entreprise dans la région.
Depuis 2 ans, le gouvernement de Giorgia Meloni a souhaité mettre la jeunesse au cœur de ses priorités dans un pays marqué par un fort vieillissement, promettant par exemple des bonus aux entreprises qui embauchent des jeunes ou en exonérant d'impôts pendant 3 ans les moins de 30 ans qui créeraient leur entreprise. Une recette encore insuffisante pour contrer l'exil inexorable des jeunes Italiens.
Et comme tous les jeudis, on retrouve Franceline Beretti qui passe en revue les médias européens. L'intelligence artificielle était partout cette semaine puisque Paris accueillait lundi et mardi son premier grand sommet international. Les sujets n'ont pas manqué dans les médias, qu'il s'agisse de questions éthiques, environnementales ou industrielles, Franceline.
La France fait partie des leaders en termes d'intelligence artificielle. C'est ce que tient à rappeler au Figaro la ministre déléguée, Clara Chapaz.
Mais on l'a, le chat GPT français. Il s'appelle Le Chat.
Le Chat. Comme la lessive.
Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais il est même plus rapide que ChatGPT. Donc ça montre bien encore comment nos entrepreneurs, nos scientifiques sont vraiment à la pointe du domaine. Ce qu'il faut faire aussi avec ce sommet, c'est se dire on a en France et en Europe de vraies entreprises qui sont dans la course et donc arrêter de commenter un peu ce qui peut se passer aux États-Unis, ce qui peut se passer en Chine.
La France est effectivement dans le top 10 des pays performants dans le domaine de l'IA, la seule européenne du classement, avec la Grande-Bretagne. Le pays a permis l'émergence de 750 start-up, de laboratoires de recherche mondialement reconnus, avec des applications dans la recherche médicale, la défense, l'ingénierie. Ça n'est pas pour rien que Paris clôture son sommet avec plus de 100 milliards de promesses d'investissement. Grâce à son énergie nucléaire, Emmanuel Macron se voit même comme le challenger de Donald Trump.
Dans ce pays où j'ai un ami de l'autre côté de l'océan qui dit « creuse bébé, creuse », ici, il n'y a pas besoin de creuser. C'est simplement branche-toi, bébé, branche-toi. L'électricité est disponible. On peut déjà se brancher. C'est prêt.
L'optimisme du président français est tout de même interrogé par la presse. L'Europe est-elle réellement en mesure de tenir tête à Washington et à Pékin? Faute de réponse, cette semaine, tout le monde se cherchait ses champions nationaux. Le Spiegel observait le marché allemand.
Une des startups les plus talentueuses en Allemagne s'appelle Black Forest Labs. C'est une entreprise qui est située à Fribourg, dont le siège social se trouve toujours en Allemagne. Elle a été créée dans le Delaware pour des raisons plus formelles.
Le Delaware est un paradis fiscal pour les entreprises. C'est peut-être ça, la raison formelle, qui explique pourquoi l'allemande Black Forest Labs y a été créée. Voilà de quoi alimenter le débat. D'ailleurs, le sommet a surtout mis en exergue deux visions opposées de cette révolution technologique, puisque les États-Unis et la Grande-Bretagne ont refusé de signer la déclaration finale en faveur d'une IA ouverte, inclusive et éthique.
Un autre sommet a été relayé par la presse, Franceline, celui de l'extrême droite européenne. Le parti des Patriotes pour l'Europe était en grande réunion à Madrid le week-end dernier.
Une réunion annuelle à l'invitation du parti Vox. Sur scène, il y avait l'Italien Matteo Salvini, la Française Marine Le Pen ou encore le Néerlandais Geert Wilders.
Oui, nous allons rendre à l'Europe sa grandeur parce que nous sommes des vainqueurs.
Mais si les Patriotes pour l'Europe sont confiants, ils sont aussi compliqués à suivre. Ils se réjouissent par exemple des nouveaux droits de douane appliqués par Washington sur les produits européens. Une contradiction soulignée par Le Monde ou encore par Il Foglio en Italie. La néerlandaise Eva Vlaar déroule son argumentation.
Prenons l'exemple de l'exportation de vin. Deux grands pays en Europe exportent du vin aux États-Unis, l'Italie et la France. Selon vous, lequel des deux pourra sans problème décrocher son téléphone, appeler Donald Trump pour faire un traité bilatéral ? Oui, Giorgia Meloni n'aura aucun problème à le mettre en place en quelques minutes, alors que Macron aura plus de difficultés.
Bon, tant qu'un pays appartient à l'Union européenne, il ne peut pas fixer ses propres droits de douane. C'est le principe d'une union douanière. Mais Eva Vlaar se projette dans un monde parfait où l'Union européenne serait seulement un douloureux souvenir. Bizarrement, la presse italienne voit les choses différemment. Le gouvernement Meloni finira un jour par tomber. C'est imprudent, voire suicidaire, de faire reposer tout un partenariat commercial sur des relations personnelles. Ensuite, Il Foglio rappelle que les États-Unis sont le deuxième pays pour les exportations italiennes. Elles ont d'ailleurs progressé d'un tiers ces trois dernières années. Alors, en attendant un éventuel traité bilatéral, les PME italiennes attendent surtout que l'Europe les protège.
Merci Franceline Beretti. À la réalisation, Théo Raison, vous pouvez retrouver Accent d'Europe et toute l'actu européenne sur notre appli Pure Radio. Mais tout de suite, restez avec nous, vous retrouvez Grand Reportage sur RFI.